Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir et merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale, comme chaque samedi à 19h. En ces heures de guergue que les actualités nous déversent en continu, je vous propose d'évoquer un livre qui parle, à mon sens, de la paix. Le très beau livre de Véronique Brindeau, Les arbres de Nagasaki. Dans Les arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau nous fait voyager à travers les rues de la ville de Nagasaki sur les traces des arbres victimes de la bombe atomique. On les appelle, ces arbres les Hibaku Jumoku. En lisant ce livre, on comprend que ces arbres sont les gardiens d'une mémoire commune, les témoins d'une tragédie, d'une histoire que l'on ne doit jamais oublier. Ne pas oublier pour tâcher de conserver l'idée de paix. J'ai lu ce très beau livre comme une incitation, une invitation à la paix dans un monde cassé, un monde en guerre, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui depuis quelques mois. Les arbres de Nagasaki est publié aux éditions Arléa. Bonsoir Véronique Brindeau.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne de la Ligue FM. Vous êtes donc, après une formation scientifique, linguistique et musicale, vous êtes spécialisée dans les arts de la scène au Japon et vous avez enseigné l'histoire de la musique traditionnelle et du théâtre classique japonais à l'INALCO, Institut des langues et civilisations. Et donc aujourd'hui, donc, vous enseignez à Tokyo, vous m'avez dit. Et vous êtes donc l'auteur de livres tels que L'Orange des Mousses. Vous avez également publié donc Anafuda, Le jeu des fleurs, un jeu très populaire au Japon. Et vous avez également publié un livre à l'attention donc des plus jeunes, J'écris des haïkus. C'est aux éditions Piquier en 2016. Dans votre livre, que j'ai beaucoup aimé, je le répète, les yeux pleins de poésie et d'empathie, vous regardez les arbres victimes de la bombe atomique. Vous constatez aussi des traces matérielles, concrètes, physiques de la bombe qui a explosé sur Nagasaki le 9 août 1945. Chacun des arbres que vous évoquez est présenté avec sa dimension précise, hein, vous indiquez la hauteur, la dimension de l'arbre, ainsi que l'état dans lequel il se trouve au moment où vous le voyez. C'est le cas par exemple de l'arbre sec de l'école Inaza, les camphriers du sanctuaire Sano, le pin et la lazée du musée de la bombe atomique, le pin miraculé, c'est très étonnant ce nom, mais on va en parler, et le magnolia de l'hôpital Saint-François. Véronique Brindeau, deux villes ont été frappées par la bombe atomique en août 1945, Hiroshima et Nagasaki. Pour quelles raisons vous évoquez seulement Nagasaki et pas les deux et pas Hiroshima ?
D'abord je vous remercie de votre invitation et de votre présentation. Je suis très sensible à cette lecture que vous faites d'un vœu de paix qui pourrait se dégager de cette présentation des arbres de Nagasaki. Alors, comment dire ? Autant Hiroshima se confond en quelque sorte en tant que ville avec cette tragédie du 6 août 1945, donc cette première bombe atomique. Autant Nagasaki est une ville qui a un passé, qui a une autre dimension, et on peut être à Nagasaki sans être toujours en relation avec cette tragédie du 9 août 1945. Donc il y a une ville que l'on connaît que par cette tragédie et l'autre qui a un passé très ancien. Et donc j'ai eu envie plutôt d'entrer dans cette ville, de marcher dans la ville et d'aller les trouver grâce aux indications que j'ai pu trouver donc au centre de documentation du musée de la bombe atomique. Donc c'est une ville dans laquelle on peut marcher, j'allais dire, comme dans une ville qui revit et qui avait vécu avant cet événement. C'est peut-être pour cela que j'ai choisi Nagasaki de préférence à Hiroshima, qui est tellement marquée que on peine à distinguer la ville elle-même de ce qu'elle a subi en réalité. Mmh.
Je rappelle pour l'histoire que Nagasaki fut un port ouvert sur le monde. Enfin, alors vous connaissez mieux, vous savez mieux que moi, bien sûr. Et vous avez donc vécu, bien sûr, très très longtemps au Japon. Vous y, comme je l'ai dit, vous y allez encore. Vous rendez encore au Japon puisque vous y enseignez, vous y travaillez.
Alors, j'ai travaillé longtemps à Tokyo, enfin longtemps, un certain nombre d'années en tout cas. Et puis, j'ai eu cette grande chance d'être bénéficiaire d'une résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, ce qui m'a permis justement de fréquenter les jardins, les théâtres et de pouvoir écrire ce livre que j'ai consacré aux mousses qu'on trouve dans ces jardins et qui ont au Japon un statut très différent de ce que nous leur accordons dans d'autres pays où ils sont éventuellement beaucoup plus comment dire, combattus que révérés, disons, alors que c'est le cas au Japon. Donc j'ai vécu plusieurs années au Japon en y travaillant, ce qui ne me laissait pas beaucoup de possibilités de voyager à l'intérieur du pays. Mais néanmoins, comme j'avais cette attirance pour les mousses que j'ai continué à entretenir, je suis allée tout au sud vraiment de l'archipel, dans une île qui est célèbre pour ses cèdres millénaires et dans lesquels il y a cette alliance d'un âge très ancien des arbres et de ces mousses qui continuent de me fasciner. Et puis surtout, sur le voyage du retour vers Tokyo, j'avais vraiment envie de m'arrêter à Nagasaki pour une raison peut-être un petit peu qui peut sembler surprenante, mais j'avais, à l'occasion d'un article écrit pour les carnets du paysage, écrit un texte sur les paysages sonores, puisque c'était le thème de ce numéro des carnets du paysage. Et j'avais lu à cette occasion une étude produite par l'Agence nationale de l'environnement sur les 100 plus beaux paysages sonores du Japon, enfin plutôt que beau, les plus représentatifs.
Vous en parlez dans le livre, hein, Véronique Brindeau.
Voilà, donc c'est déjà une chose un peu étonnante qu'une région définisse un paysage sonore qui le représente.
Une sélection de paysages sonores.
Voilà, donc chaque région a élu un représentant à travers quelque chose qui pourrait sembler a priori plutôt d'ordre acoustique. Alors effectivement, on a des cris d'oiseaux marins en particulier, on a des cloches de temples, on a par exemple des bruits de machines à tisser, ça on peut bien comprendre. Et même la ville de Kyoto, dans laquelle, l'ivière de la ville de Kyoto, il y a une forêt de bambous qui est très célèbre et très fréquentée d'ailleurs. On peut penser quand même que et le susurrement des feuilles de bambou dans le vent, ou les fûts même de bambou qui sont creux, qui, dès qu'il y a un peu de vent, cognent les uns contre les autres, il y a un climat sonore particulier dans lequel la ville de Kyoto décide de se reconnaître. Et à Hiroshima, ce sont les cloches de la paix qui ont été installées en 1964, si je me souviens bien. Mais à Nagasaki, et en lisant cette étude, j'avais été très étonnée de découvrir que la ville avait choisi pour emblème, en quelque sorte, deux arbres, deux camphriers qui sont à l'entrée d'un sanctuaire Shinto. Donc je voulais vraiment aller les voir, les entendre, essayer de comprendre. Et en les regardant, ils avaient l'air... ils étaient splendides, vraiment.
Je vous cite, Véronique Brindeau, page 11-12. « Ces arbres ne sont ni des ruines figées dans le temps de la catastrophe, ni des cénotaphes érigés pour nous garder de l'oubli. Ils n'ont ni la fixité des édifices, ni celle des montres arrêtées sur l'heure de l'explosion. Telle l'horloge aux aiguilles ainsi immobilisée par laquelle commence l'épouvant parcours du musée de la bombe atomique. » Alors ça, on a des indications que c'est le musée, mais parlez-nous de la singularité de ces arbres, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher donc dans ces arbres la trace de cette tragédie de la bombe atomique? Comment vous aviez regardé ces arbres?
Alors, pour revenir un instant sur ces deux camphriers, qui semblent à première vue vraiment... simplement des arbres très grands qui s'élèvent haut dans le ciel. au pied de cet arbre, il y a un petit écriteau qui indique que ces arbres qu'on avait tenus pour morts aussitôt après l'explosion de cette bombe atomique ont repoussé quelques années plus tard. Et j'avais lu beaucoup de choses sur cet épisode, évidemment, et j'avais en tête une photographie prise peu après. On voit un escalier à peu près complètement détruit, et à l'arrière-plan, deux arbres qui ont l'air vraiment noircis, totalement brûlés. Et en fait, quand on passe dans ce même escalier, qui a été refait, complété, on met ses pas dans ceux du photographe, mais tout en haut de l'escalier, il y a ces deux arbres splendides. Et quand on regarde cet écriteau, on voit qu'ils étaient victimes de la bombe atomique. Et je suis allée au centre de documentation pour en savoir un peu plus, et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'arbres qu'on avait identifiés comme tels. Et mon premier étonnement, c'est de voir qu'on a calqué le nom par lesquels on les désigne sur celui qui permet de désigner les survivants humains, leurs frères humains en quelque sorte, qu'on appelle les hibakusha, ces personnes irradiées. On leur donne le même nom, donc, enfin le nom des arbres qui ont été victimes de la bombe. C'était déjà un premier sujet d'étonnement, et j'ai eu envie de, rencontrer, en tout cas, aller trouver d'autres arbres pour voir ces témoins qui, effectivement, ne sont pas fixes comme des monuments. Ils sont vivants, ils sont dans la ville. On peut les croiser, on peut s'arrêter, on peut faire l'expérience de voir un élément du vivant qui était là au moment de cette catastrophe, qui témoigne en quelque sorte.
J'ai envie de dire, à défaut, bien sûr, on ne peut pas rencontrer de témoins humains, mais il reste ces arbres qui sont des témoins muets.
Alors, il reste ces arbres, il en reste tout de même un certain nombre, et j'ai choisi, parmi ceux que j'ai pu aller voir, ceux pour lesquels je pouvais tisser un lien avec l'histoire d'hommes ou de groupes humains qui se sont occupés de ces armes ou qui continuent de s'en occuper, qui a une histoire humaine qui se tisse avec cette préservation de l'arbre. Parce que les arbres, comme vous savez sans doute, étaient là bien avant les hommes sur la terre. Donc ils sont aussi des témoins d'une présence sur la terre qui est déjà un élément d'inscription dans le temps, et ils ont résisté, un certain nombre d'entre eux a résisté, et je pense que ça, ils méritent qu'on les regarde avec attention. Oui.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans version originale. Mon invité est Véronique Brindeau, qui publie chez Arléa Les Arbres de Nagasaki. Dans quelle mesure ces arbres comportent non seulement des traces du passé, mais aussi et surtout des sédiments pour comprendre le présent?
Alors, un certain nombre de ces arbres portent d'évidentes marques, d'évidentes blessures, où on le voit bien, on voit clairement en tout cas qu'il y a un côté qui a été beaucoup moins développé qu'un autre, où les feuilles n'ont pas poussé, ou bien il y a des striures, où il y a même des cavités, donc on voit cela. Mais on voit aussi qu'ils survivent, qu'ils continuent d'avoir une vie. Et ce qu'on apprend beaucoup en les regardant, c'est que parfois, ce qui a permis qu'ils survivent, c'est qu'ils ont pris appui sur un arbre voisin. Et donc, on apprend beaucoup de choses, en fait, en regardant ces arbres, c'est-à-dire que ce sont des panneaux généralement très laconiques au pied des arbres. Il n'y a pas du tout d'effusion lyrique, c'est assez factuel. Mais pour ceux, de Sano, ou pour un autre, dans une autre école, à Shiroyama, on dit vraiment que la population, voyant ces arbres revivre après quelques années parfois, reprenait aussi espoir. et en particulier le fait qu'un arbre survive grâce à l'appui d'un arbre voisin, il y avait quelque chose aussi d'une solidarité en quelque sorte qui était un facteur d'encouragement. Mais ce qui est peut-être le plus frappant dans mon expérience, hein, je ne peux parler que de ce que j'ai
vu,
c'est
bien de ça dont il s'agit, bien sûr.
Ce dont j'ai fait l'expérience, c'est que la ville renaît. Donc la ville se reconstruit. Et comment reconstruire un présent, un futur, sans que le passé soit oublié, absorbé ou négligé ou qu'il disparaisse dans la ville moderne. Et j'étais très frappée de voir un endroit que j'ai cherché, parce que j'ai aussi les informations que j'avais trouvées étaient parfois assez anciennes, et j'ai cherché des arbres que je n'ai jamais trouvés, en fait. En particulier un arbre devant ce qui devait être une école et qui avait été le premier centre de soins juste après 11h02 donc du 9 août 1945.
Vous parlez donc de l'immense camphrier du centre dentaire, c'est ça?
Alors, il y a plusieurs exemples de cette manière dont la ville se reconstitue tout en sans négliger sa mémoire, mais en se reconstruisant. J'ai cherché un arbre, un ilex, enfin une sorte de grand houx devant une école. L'école avait disparu et c'était une médiathèque. Très récente, il y a quelques années.
C'est devenu une médiathèque.
C'est devenu une médiathèque. Donc l'arbre a disparu. Donc on n'a pas toujours maintenu comme on l'aurait fait d'un symbole sacré des arbres qui étaient encore vivants. On les a aussi détruits pour permettre qu'une médiathèque, un accès à la culture soit possible. Mais à l'intérieur de ce nouvel édifice, donc ça ne se voit pas quand on passe autour, mais quand on entre, il y a tout de même un couloir qui a été ménagé, dans lequel on a reconstitué la salle de classe de l'école qui avait servi de centre de secours dans les premiers moments de cette tragédie. Et donc, on garde la mémoire, mais on peut quand même supprimer les arbres. Alors, il existe en photo, voilà, et devant cette médiathèque nouvellement construite, on a installé un certain nombre d'arbres, dont certains qu'on a déplacés. Certains sont des arbres rescapés, et d'autres ne le sont pas, mais ils sont, comment dire, une sorte de fraternité des arbres qui est là, et qui dépasse cette histoire. Puisque ceux qui étaient irradiés et ceux qui ne l'étaient pas sont ensemble dans ce lieu qu'on appelle une forêt de la mémoire, devant la médiathèque.
Et c'est le sentiment que j'ai en vous lisant, Véronique Brindeau, c'est que la destruction des êtres ne signifie pas qu'ils sont... Alors, c'est bien sûr, c'est ma lecture, qu'ils sont complètement partis ailleurs, puisque ce sentiment qu'ils sont là... dans les feuilles, dans l'écorce et le tronc des arbres, comme si cette présence des arbres blessés d'une certaine manière, très, très profondément touchés, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein, gardait quand même quelque chose des humains qui sont partis.
Alors oui, je pense que c'est cela qui importe, je crois, hein, c'est ce lien qui se fait à travers le temps, entre des arbres, une histoire et une vie qui continue dans la société des hommes. J'étais vraiment frappée de voir cette histoire d'une petite fille qui n'avait pas souffert de ces retombées, grâce en particulier à un arbre à kaki qui était très ancien, et elle avait je crois 5 ou 6 ans à cette époque-là. Et elle a en quelque sorte été épargnée grâce à cet arbre qui l'a protégée. Et l'arbre n'a pas pu lui survivre très longtemps. Il a pourtant été vraiment bien entretenu, bien soigné, du mieux possible, mais il n'a pas pu continuer très longtemps. Mais cette petite fille devenue grande a tenu à donner aux enfants qui lui sont nés un prénom qui s'écrit avec le signe de l'arbre qui lui a permis de les mettre au monde.
Elle s'est réfugiée sous l'arbre
pour
se protéger.
Oui, c'est ça. Oui.
On poursuit donc notre entretien, Véronique Brindeau, au sujet de votre livre, Les Arbres de Nagasaki, publié chez Arléa. On écoute la musique d'Eiko Ishibashi. On en parle dans quelques instants. Mr. Cloud, titre du morceau d'Eiko Ishibashi que nous écoutions dans version originale sur Aligre FM. Eiko Ishibashi qui a entre autres composé la musique du film Drive My Car et Le Mal n'existe pas. Je reçois Véronique Brindeau qui publie aux éditions Arléa Les Arbres de Nagasaki. Parlez-nous, Véronique Brindeau, de, à vous en parler pendant trois pages, hein, de ce pain miraculé. J'aimerais que vous en disiez quelques mots. C'est très étonnant l'histoire de. Bien sûr, chaque arbre a son histoire, mais celle-ci me ressort davantage.
C'est une histoire un petit peu apposée par rapport à celle de Nagasaki, puisque après avoir fait en quelque sorte le portrait, enfin j'ai essayé du moins d'un certain nombre d'arbres qui m'avaient marqué dans cette ville de Nagasaki, je me suis dit que ces arbres avaient vu quelque chose. Nous étions en train, nous, de regarder, enfin, j'étais en train de regarder des arbres qui avaient vu quelque chose. Et j'ai pensé, je venais de lire un livre d'un photographe, Hatakeyama Naoya, qui lui a connu le tsunami en 2011, donc dans la région d'Iwate, au nord du Japon, ce gigantesque raz-de-marée qui a tout renversé sur son passage. Et il fait le portrait d'un certain nombre d'arbres qui sont des rescapés du tsunami. Donc, je voulais prolonger, en tout cas, ces portraits d'arbres victimes de la bombe, de cette bombe atomique
de 1945.
Le 9 août 1945, par un autre chapitre qui montre aussi un attachement très profond à des arbres qui ont survécu et dans lesquels et qu'on investit énormément d'espoir, enfin, d'espérance. En l'occurrence, cet arbre faisait partie, ce qu'on appelle le pain des miracles, le pain miraculé, faisait partie d'une pinède de plus de 70 000 arbres. Et il est le seul à avoir survécu. Oui. Il a survécu quelque temps, mais assez rapidement, il a donné des signes de souffrance. On a essayé de l'isoler, parce qu'il avait quand même, ses racines avaient trempé dans les hydrocarbures et l'eau salée pendant trop longtemps. On a essayé de le renforcer, d'enlever tout ce qui pouvait pourrir et nuire à une continuité de sa vie. Et finalement, on a dû renoncer. Et au bout d'un certain temps, on en a fait quelque chose de très étonnant hein, quand on va visiter ce lieu qui est dans un lieu désert. On a cette espèce d'arbre qui n'en est plus tout à fait un, puisque en fait c'est un arbre de synthèse en quelque sorte qui a remplacé cet arbre victime du tsunami. Il y avait une démarche assez proche entre un accident naturel qui était ce tsunami et puis un accident qui ne l'était pas du tout puisque c'est du fait des hommes qu'il y a eu cette destruction à Nagasaki, bien évidemment, mais avec cette sorte de zone commune d'arbres qu'il faut à tout prix préserver. Parce que ils sont le support de quelque chose qui témoigne d'une survivance de vie à travers ces épreuves colossales qui dépassent toute l'imagination.
Et dans les deux cas, hélas, le nucléaire intervient puisque
bien sûr
ce raz-de-marée, ce tsunami va provoquer donc toute la catastrophe de Fukushima de cette centrale. C'est ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est si on visite. Alors, avant ça, oui, je voulais signaler donc ce que j'invite nos auditeurs à découvrir dans votre livre, c'est cette dimension de survie et de résistance. Ce sont le terme de résistance aujourd'hui, la notion de résistance a aujourd'hui pour moi tout son sens aujourd'hui avec la situation dans le monde pour beaucoup de raisons. Oui. Donc, il y a cette dimension aussi qui peut être soit métaphorique ou littérale. En tout cas, pour moi, elle est là dans le livre. Des personnes qui souhaitent donc visiter Nagasaki et qui voudraient voir ces arbres, Véronique Brindeau, dont vous parlez, visiblement, vous dites qu'aucun itinéraire défini ne relie ces arbres, souvent oubliés aux abords des lieux les plus fréquentés. Pour qui veut les voir? Comment on peut faire?
Alors, un certain nombre de ces arbres sont dans des demeures résidences privées et ça, on ne peut pas les voir, effectivement. Mais il y en a beaucoup qui se trouvent dans des écoles, donc je donne le nom de l'école, dans des cours d'hôpitaux. On peut très bien aller devant ces hôpitaux ou à l'arrière du côté du parking des visiteurs, par exemple pour l'hôpital Saint-François, ou dans des temples et des sanctuaires dont l'accès est tout à fait libre. Donc, à chaque tête de chapitre, je donne le nom du lieu où se trouve cet arbre et on peut assez facilement les trouver. Quand ils sont à l'intérieur d'une école, je ne dis pas qu'il ne faut pas franchir éventuellement une barrière, mais personne ne m'a jamais reproché d'entrer dans une école et d'aller. Je suis allée à plusieurs reprises pour aller les voir dans différentes saisons. différents moments. Et en tout cas, on peut les voir, bien entendu, oui. Ils ne sont pas vraiment mis en valeur, si on peut dire. Mais ils sont présents, ils sont là.
Et signalés quand même.
Ils sont signalés par ce petit écriteau qui les identifie comme victimes de la bombe. Oui.
Alors, vous dites également que vous rappelez que les arbres atteints donc par la bombe atomique de 1945 sont classés en quatre catégories. Et qui décide de ce classement ?
Alors c'est la municipalité de Nagasaki s'entoure d'un collège de spécialistes des arbres et qui savent vraiment analyser l'âge de l'arbre, ce dont il souffre, quels sont les éléments qui peuvent remédier à certaines de leurs blessures, parce qu'évidemment quand l'écorce est atteinte, il faut parfois combler pour éviter des attaques de termites par exemple. Donc la municipalité de Nagasaki prend en charge financièrement, et s'il y a plusieurs catégories, c'est parce que les arbres sont plus ou moins atteints et font l'objet de vérifications plus ou moins fréquentes. Donc à intervalles réguliers et selon l'état de ces arbres, des experts viennent voir ces arbres, voir comment ils évoluent, s'il doit avoir des traitements spécifiques. Voilà, donc en tout cas, ils sont entourés de collèges de spécialistes à cet effet.
Et quelle relation avez-vous remarqué, qu'avez-vous pu voir de la relation que les Japonais entretiennent avec ces arbres ? Quel est le comportement journalier, quotidien, que vous avez pu percevoir des hommes et des femmes japonais à l'égard de ces arbres ?
Alors, c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris, parce que si on peut parler de monuments, en fait, ce sont des monuments très ordinaires. Je n'ai pas vu de dévotion particulière pour ces arbres qui ne sont pas si connus que cela. Et puis, c'est difficile de faire le départ entre aller voir un sanctuaire où il y a de magnifiques camphriers et qui est un lieu d'histoire, puisque je pense que beaucoup d'habitants de Nagasaki ont en tête cette photographie où on voit un escalier complètement détruit et ce qu'on appelle un torii, c'est-à-dire une sorte de porche qui marque l'entrée dans un sanctuaire et qui n'a qu'une jambe, si vous voulez. C'est un portique et la moitié s'est effondrée. Il ne reste que le linteau supérieur et un seul pied de ce portique. C'est un lieu très, très connu. On voit souvent cette image à Nagasaki. Mais on passe vraiment au même endroit. Donc c'est un lieu qu'on va aller visiter parce que c'est un lieu historique. Et puis il y a ces camphriers. Mais on ne va pas peut-être voir les camphriers pour eux-mêmes. Et on va découvrir à cette occasion leur histoire. Donc j'ai été surprise de voir qu'il n'y avait pas de... Ils sont là, voilà, comme d'autres arbres, j'ai envie de dire. Et souvent, d'ailleurs, par exemple, là, il y a un arbre magnifique camphrier, mais qui a aussi beaucoup souffert, qui est tout près d'un téléphérique qui mène tout en haut de Nagasaki, où on a un point de vue absolument prodigieux sur la baie à 300 mètres de haut. Et les gens vont tous voir, directement prendre le téléphérique et ne regardent pas ce camphrier, en fait. Donc ils sont là, ils nous rappellent ce qui s'est passé, nous rappellent leur survivance, leur résistance, mais on ne peut pas dire qu'ils soient l'objet d'un... et c'est tant mieux, en fait, en quelque sorte.
D'une attention, d'une vénération.
Voilà, il n'y a pas de parcours touristique autour, et c'est tout de même sans doute mieux. Ensuite, il y a des arbres qui, là aussi, fait partie des arbres que j'ai cherché sans les trouver. Dans un cimetière. Alors, Nagasaki est, comme vous le rappeliez à juste titre en tout début de cette émission, une ville qui était ouverte vraiment sur l'étranger, de par sa situation portuaire vraiment exceptionnelle. Et donc, pendant toute une époque, il y avait beaucoup d'étrangers au Japon, des Hollandais, des Russes, des Chinois. Donc, il y a un cimetière russe, hollandais, chinois. Et dans ce cimetière, j'avais vu qu'il y avait un camphrier qui devait normalement être parmi ceux qui avaient résisté à cette bombe atomique. Et puis, en fait, j'avais beau arpenter ce cimetière en regardant voilà, tous les arbres qui pouvaient avoir cet âge-là, un âge compatible en tout cas avec cet événement, impossible. Et je finis par demander à un jardinier d'un temple chinois pas loin, il me dit qu'il a... Ben non, on l'a coupé. Couper un arbre pareil, enfin j'étais un peu scandalisée, un peu naïvement scandalisée je dois dire, parce que cette ville renaît bien entendu, et en réalité il était très bien portant cet arbre, et donc les tombes alentour étaient en danger, enfin ses racines soulevaient ces tombes,
et
donc pour préserver en quelque sorte le repos des défunts, on a décidé de supprimer cet arbre. Mmh. Donc, ce sont des monuments qui ont un statut très particulier, je trouve, qui témoignent aussi du fait qu'une certaine vie se poursuit, avec des habitants qui sont nés depuis et qui n'ont pas connu cet épisode. Mais voilà, ce sont des témoins discrets, disons, de cet épisode.
Et vous avez donc, puisque le sentiment, vous avez pu constater, Véronique Brindeau, que la modernité n'est pas une menace pour ces arbres, finalement. C'est-à-dire, leur présence est encore là, et il y a toujours cette volonté de les entretenir. Il n'y a aucun risque. Alors là, c'est un choix difficile, j'imagine, dans cet endroit précis, entre cet arbre et les tombes qui se soulevent en raison des racines. Mais dans l'ensemble, ces arbres sont préservés, même s'ils ne sont pas vénérés, en tout cas sont respectés. Il n'y a pas de menace de disparition.
Donc, incontestablement, on essaie de les maintenir à travers cette politique de la ville. Les propriétaires qui les ont dans leur jardin aussi y veillent avec beaucoup de soin. Mais dans certains cas, il y a des choix qui doivent être faits. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit choisir entre de nouvelles générations qui vont pouvoir lire et comment est-ce qu'on essaie de rendre cela compatible. Et j'ai trouvé qu'en tout cas dans l'école Shinkozen, c'était finalement un bon compromis puisque on en a mis d'autres. Et à l'intérieur de la médiathèque, on voit sa photo et on reconstitue ce qui s'est passé à cet endroit-là. Mais tout autour, c'est un lieu vivant et porté vers le futur.
C'est intéressant parce que à la page 52 de votre livre, Véronique Brindeau, vous signalez que un arbre enclos dans un carré, tel est l'idéogramme qui représente en japonais toute forme d'obstacle ou d'entrave.
Oui, ça m'a beaucoup marqué. Oui, enfin, vous savez quand le japonais s'écrit avec deux syllabaires, mais et avec ce qu'on appelait autrefois des idéogrammes qui viennent de la Chine. Et souvent, ces idéogrammes ont un sens assez précis. Et celui qui se lit Komaru, c'est l'empêchement, de la gêne, quelque chose qui vous empêche d'une certaine manière. Et c'est le signe de l'arbre dans un carré. Et j'ai pensé à cela en visitant le musée de la bombe atomique, bien entendu, où il y a des vitrines dans lesquelles on voit des arbres morts derrière cette vitrine. Et c'est assez étrange comme sentiment, parce que c'est pas leur place, effectivement. C'est pas la place d'un arbre d'être derrière, enfermé derrière une vitre comme ça.
Vous êtes bien dans version originale. Je reçois Véronique Brindeau pour son livre « Les arbres de Nagasaki » sur Aligre FM 93.1. On écoute encore la musique de Lafitte-Dira avant de poursuivre avec vous, Véronique Brindeau.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies. Do I see blue birds singing a song? Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Be it in do,
do 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 do
Ella Fitzgerald, Blue Skies sur Aligre FM 93.1. Vous êtes bien dans version originale. Je reçois Véronique Brindeau qui publie chez Arléa Les Arbres de Nagasaki. La ville de Nagasaki, Véronique Brindeau, ça se lit dans votre livre, est peuplée de symboles de paix finalement. Les parcours aspirent à la paix. Comment arrive-t-on à obtenir cette, je sais pas si vous parlez de cet effet-là, de ce résultat, de ce sentiment, de cette émanation?
Ah, alors c'est difficile à décrire comme ça en peu de mots. Il n'est rien resté de la ville, donc toute la ville est entièrement moderne. Alors on est un petit peu, si on n'avait pas les noms des avenues, les noms des rues, on ne pourrait que difficilement raccorder ce dont on fait l'expérience en marchant dans la ville et ce qu'on sait de ce qui s'est passé ce 9 août 45. Mais quand on connaît le nom des lieux, c'est effectivement très, très perturbant en un sens. Mais le tramway passe, il y a quelque chose de très, très joyeux dans cette ville, très, très dynamique. Et accomplir ce parcours qu'on ne peut vraiment pas définir comme un pèlerinage, parce que rien n'est fixé, c'est une manière de rester en relation avec ces arbres qui indiquent ce vœu de paix qui est rappelé à chaque fois dans ces petits écriteaux. On dit que l'arbre a été victime de la bombe et que il représente l'espoir de paix pour les générations futures. C'est à peu près toujours les mêmes mots qui sont employés. Alors bien sûr, ce sont des invocations. On espère tous, évidemment, que la paix soit durable, qu'on n'oublie pas l'absolue nécessité de cette paix. Mais ce sont des mots très simples et qui sont rappelés dans une ville qui est vivante, voilà, comme nous tous qui traversons cette ville en même temps.
Il faut signaler que Hiroshima et Nagasaki ne cessent, depuis plusieurs décennies maintenant, de plaider pour le désarmement nucléaire. Ils consacrent des galeries importantes à ce sujet dans leurs musées respectifs, comme vous avez pu le constater, bien sûr. Alors là, je fais référence au philosophe allemand Gunther Anders qui a écrit donc sur Hiroshima dans son livre très connu, qu'on peut lire d'ailleurs, cette étude Hiroshima est partout. Il disait qu'on a le sentiment que les Japonais ont vécu enfin, une catastrophe naturelle. Il ne parle pas de la cause, en tout cas, au moment où il écrivait ces lignes en tout cas, hein, il ne parle pas de la cause de la destruction et des morts, comme si cette cause devait être inconnue. Est-ce qu'aujourd'hui ça a évolué?
Alors je n'ai pas la position d'un philosophe ni d'un sociologue pour pouvoir vraiment vous donner une réponse unique à cette question. Une chose qu'il faut tout de même préciser, c'est que Nagasaki, ce n'était pas prévu. Hein. Comme vous savez peut-être, Hiroshima, oui, c'était décidé le 6 août. Ensuite, il y avait une sorte de liste de villes qui potentiellement pouvaient, sur lesquelles potentiellement on pouvait larguer une bombe.
Dans Kyoto d'ailleurs, je crois.
Alors, Kyoto n'était plus sur la liste au bout d'un certain temps, mais après Hiroshima, dans l'hypothèse où il n'y avait pas de reddition du gouvernement japonais, la ville suivante c'était Kokura. Parce qu'il y avait là aussi un port avec des infrastructures militaires. Ce n'était pas Nagasaki, c'était celle d'après. Mais quand l'avion a décollé, parce que c'est très complexe en fait ces questions historiques, et entre-temps, hein, le 8 août, la Russie envahit la Mandchourie. Donc on ne peut pas parler de jeu, mais il y a quand même les États-Unis, la Russie et le Japon qui sont liés dans ce conflit mondial. Et en tout état de cause, à Kokura, ça devait être la deuxième bombe, le 9 août. Quand l'avion part, y a toutes sortes d'épisodes font que ça n'aurait même pas dû avoir lieu, puisque je crois que le réservoir de kérosène était défectueux. Et quand l'avion arrive près de Kokura, il y a des fumées, ça n'est pas possible. L'avion revient, ça n'est toujours pas possible. Une troisième fois, et puis finalement, là, l'avion n'aura plus la possibilité de revenir à sa base s'il ne largue pas sa bombe. Ils vont vers Nagasaki, et au lieu qu'ils larguent la bombe sur le port, comme prévu, où il y avait les usines d'armement Mitsubishi, finalement, il y a une fenêtre qui se fait entre les nuages, et ça a été largué au nord de la ville, dans le quartier de la cathédrale Urakami. Et donc c'est une suite d'épisodes hasardeux qui fait que Nagasaki a été cette victime. Comment est-ce que les Japonais vivent cela? Disons que ça a été certainement la fin de la guerre était de toute façon désirée, parce que le pays était exsangue de toute façon, et là, le militarisme qui gangrenait vraiment toute la société japonaise n'était pas ce que souhaitaient les Japonais. Donc il y a eu une nouvelle société qui s'est faite, et puis bon, ils sont un peu passés à cette nouvelle vie. Je crois qu'on n'y tient pas beaucoup à en parler, en réalité. On préfère éviter un petit peu le sujet. Et pendant longtemps, d'ailleurs, peut-être avez-vous vu le film de Ibusé qui s'appelle Pluie noire, qui raconte la manière dont les personnes irradiées de Hiroshima étaient mises au banc de la société japonaise.
Vous parlez effectivement de ces trois mises à l'écart. Oui. D'une part, le gouvernement japonais lui-même, mais également les autres, les contemporains, la société.
C'est-à-dire que le Japon lui-même a mis beaucoup de temps à reconnaître cet état de victime et à indemniser, soigner toutes les personnes victimes. Et ça a duré très longtemps, en plusieurs étapes. Et puis, la société elle-même à traiter comme des parias les personnes qui avaient été victimes, en particulier les jeunes filles ne pouvaient pas trouver à se marier, etc. Donc il y a une espèce de... Et hélas, c'est quelque chose qu'on a retrouvé au moment de Fukushima, où les personnes qui étaient victimes des irradiations après l'accident de la centrale nucléaire étaient mises aussi au banc de la communauté.
Et finalement, ce sont des catastrophes qui ne sont pas parvenues à former un ciment à être un ciment de cohésion sociale, finalement, pour ce pays.
Je pense que le Japon a un fort sentiment d'identité, globalement.
Globalement,
de toute façon,
indépendamment de ça.
Ensuite, il faut peut-être distinguer, on a effectivement donné le prix Nobel de la paix à une association de personnes victimes de la bombe, mais c'est une association, il faut tout de même le préciser, qui milite pour l'abolition des armes nucléaires, mais en aucun cas du nucléaire civil qui est en cause dans la catastrophe de Fukushima. C'est traité très différemment.
Oui. Et en ce qui concerne donc la création artistique par rapport à ces catastrophes, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de, à la différence donc des autres catastrophes, les catastrophes nucléaires sont, hélas, récentes dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que l'imaginaire n'est pas un peu, est-ce qu'il n'y a pas d'imaginaire construit autour de ces catastrophes? Que l'imaginaire ne parvient peut-être pas dans les œuvres à dire cette catastrophe, si?
Alors, après ces différentes catastrophes, il y a un certain nombre d'exutoires qui passent par, en particulier, pour nous c'est un peu étonnant, mais par la poésie en particulier. Il y a eu de très nombreuses productions de ces poèmes qu'on connaît assez bien, je pense en France, qu'on appelle des haïkus, des poèmes brefs, ou aussi des waka, un peu plus longs, qui ont été écrits à la suite de ces catastrophes et qui ont créé aussi un lien entre les personnes pour exprimer un certain nombre de choses. Donc elles ont... Ces catastrophes se sont traduites, pour parler d'expression artistique, il y a eu une très grande quantité d'œuvres poétiques qui ont été créées à ce moment-là. Ce qu'on peut dire aussi, par exemple, si on pense au pain miraculé donc de la région d'Iwate, on a construit des instruments de musique à partir de bois flottés échoués de ce tsunami. Donc on a créé des instruments de musique avec cette catastrophe, en quelque sorte, et ces instruments sont joués par des professionnels et par des amateurs qui se relaient dans les écoles pour continuer à se souvenir à travers quelque chose qui est aussi un médium de l'ordre d'un médium artistique.
Véronique Brindeau, votre livre est écrit sous le mode de la description, mais évidemment avec de l'empathie, avec une charge poétique, je trouve. Comment est-ce que vous avez procédé pour l'écriture? Il y a d'une part l'observation, mais quand vous décidez de passer à l'écrit, comment est-ce que cela s'est fait chez vous?
Alors je ne dis pas que j'ai été réticente à écrire ce livre parce que je voulais vraiment l'écrire, mais j'avais bien conscience d'une forme d'indécence aussi à parler de ces arbres. Et j'ai essayé de n'être pas du côté d'un lyrisme ou d'un misérabilisme, enfin d'essayer de trouver quelque chose.
Alors si je vous rassure, il n'y a pas dans Fanfase, le texte, je trouve, garde une certaine mesure, une certaine pudeur, une certaine discrétion, tout en ayant cette charge poétique. Vous ne tombez pas dans l'emphase, ce que je trouve bien.
En tout cas, j'ai essayé de maintenir cette couleur en essayant peut-être, si j'évoquais la notion de tissage, de toujours passer de l'un à l'autre, de quelque chose qui est d'une gravité à quelque chose qui fait plutôt penser à une vie ou à quelque chose d'ordinaire, mais de fluctuer à l'intérieur de chacun de ces portraits entre ces deux zones. Et si je prenais la comparaison d'une photographie, par exemple, je n'ai pas voulu faire un tirage avec beaucoup de noir et beaucoup de blanc. J'ai essayé d'avoir plutôt des nuances, des gradations, et de passer de l'un à l'autre au cours dans le fil du texte, d'un état à un autre, entre ce qui est du tragique à l'ordinaire et au vivant.
Et quand est prévu votre prochain voyage pour le Japon?
Alors, comme je vous le rappelais au tout début de cet entretien, comme je donne des cours à Tokyo au mois de juillet, je pense poursuivre pour aller retourner voir j'allais dire mes arbres, aller retourner voir les arbres de Nagasaki donc au mois d'août, juste après.
Alors donc c'est le premier séjour après l'écriture de ce
voilà,
livre.
Voilà, oui.
Bien. Bien, je rappelle donc le titre pour nos éditeurs. Les arbres de Nagasaki, c'est publié aux éditions Arléa. Merci beaucoup, Jean-Luc Brendo. Encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup aimé votre livre.
Qui je vous remercie très beaucoup merci. Pour ces mots chaleureux. Et puis, je remercie bien sûr Radio Aligre.
Le temps de remercier nos amis auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Et merci beaucoup à Armand Gury et Louis Ponanti qui étaient à la réalisation technique. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, comme chaque samedi, Audiométrique. Donc, passez une bonne soirée à l'écoute de nos émissions. Bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine sur Aligre FM 93.1.
Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon-Émile.
Écoutez Aligre FM 93.1.